Franchement, tout le Sahel, qui est le nœud, qui est le magma, là où il y a une crise, où il y a les militaires français qui sont présents, ils ont tous voté pour Mélenchon. Donc il est obligé de. Il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose, un sentiment là-bas dont il est obligé de tenir compte.
Donc sur un supposé néocolonialisme français.
Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup, il y a un désamour, il y a aussi des choses qu'il ne doit pas porter toute la croix de ce qui se passe, mais c'est avant lui, il y a ceux qui l'ont précédé, qui ont fait. Je crois que la volonté était là avec lui en 2017, mais il a été vite
Vous revenez au
récupéré
discours de
par les militaires et par les diplomates.
Même question pour vous, Anne-Lorraine Bujon. Comment Emmanuel Macron fera-t-il pour tenir compte de ces 41% d'électeurs de Marine Le Pen, eurosceptiques, tentés par le repli, affolés par la notion de mondialisation, considérant que Bruxelles, ce sont des technocrates?
Alors qu'ils doivent tenir compte du vote contestataire, de la force des sentiments de colère, du sentiment d'être délaissé, déclassé, par la mondialisation, des angoisses identitaires, oui. Cela dit, je ne pense pas que la politique étrangère ait été un facteur déterminant dans cette élection. Donc, est-ce que c'était vraiment
que c'est le pouvoir d'achat avant tout.
41% d'électeurs eurosceptiques, ces 41% d'électeurs qui étaient sensibles à toutes sortes de messages de Marine Le Pen? Mais je ne pense pas que l'élection se soit jouée sur cette question, ou alors un peu à l'inverse de ce que vous semblez dire, c'est-à-dire qu'à la fin des fins, quand il dit ma réélection, c'est un référendum sur Union européenne ou pas, il me semble que l'électorat français a plutôt exprimé un souhait de rester dans cette Europe et d'en faire une Europe forte et unie. Et le contexte de la guerre en Ukraine,
c'est absolument central.
Viktor Orban, c'est aussi un leader européen pro-russe. Et là, je pense que l'idée que Emmanuel Macron était le seul en mesure de poursuivre cette politique de fermeté européenne contre l'agression russe en Ukraine, si quelque chose, pour moi, ça a plutôt joué en sa faveur. Et Marine Le Pen elle-même a été obligée de mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans son vin.
Et a approuvé Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux-tours.
Richard Verli, réagissez.
Moi, je pense qu'il va faire exactement le contraire de ce que vous évoquez, Elisabeth. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenir compte, sur la question européenne, de ces 41%.
Et la question internationale.
Ne va pas en tenir compte parce que l'Europe est pour lui un formidable argument. Mmh. C'est peut-être le seul vrai socle qu'il a, idéologique, en quelque sorte. Mmh. Et en plus, c'est un socle qui peut lui permettre de constituer sa future majorité parce qu'il peut regrouper finalement tous les éléments pro-européens des différents partis. Donc, à mon avis, sur ce sujet-là, il ne va pas écouter les colères des 41%.
Juste une autre question, Richard Verli. J'étais frappé par la déclaration de Mme von der Leyen qui disait « on va faire progresser la France ». Est-ce que quelque part à l'étranger, on peut nous regarder comme un pays un peu malade, qui a failli basculer, auquel il faut faire très attention parce que, mon Dieu, notre pouvoir européen n'est pas si stable?
Écoutez, mon éditorial d'aujourd'hui dans Le Temps, puisque je l'ai écrit, c'est « La France dit non au repli ». Les Français disent non au repli. Et je crois que, vu de Bruxelles, oui, il y a ce sentiment qu'on peut aider, peut-être, avec des politiques plus habiles. Alors là, pour le coup, on est dans les 41% des politiques européennes qui parlent davantage
des électeurs
à ces gens-là.
De Marine Le Pen.
Voilà, des politiques européennes qui parlent davantage à ces gens-là, des politiques européennes plus inclusives. Je crois que c'est ça qu'elle veut dire. J'espère, en tout cas. C'est « mettons au point des politiques européennes qui permettent aux gens de se sentir davantage européen. Et c'est la fameuse Europe qui protège. Si c'est ça qu'elle veut dire, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il n'y a pas de repli des Français vers le territoire national, vers la nostalgie. Ça n'existe pas, selon vous.
Ah, si, non, je ne dirais pas ça. Je pense que des nostalgies et une inquiétude sur l'identité française, etc., il y en a une, mais l'idée que...
Je dis ça autrement, si vous
permettez. L'idée que la France est plus forte si elle agit à travers l'Europe et avec ses partenaires européens, à mon avis, est une idée qui se répand beaucoup. Et que donc, même y compris par nostalgie de la grandeur de la France, on peut être très pro-européen.
Alors, disons, si je suis un électeur dépossédé et je vois l'ensemble des chefs d'État et de la presse international applaudir à l'érection de l'homme pour qui je n'ai pas voté, est-ce que je ne suis pas encore plus malheureux, dépossédé? Question pour vous, Francis Patindé.
Évidemment, oui, c'est vrai que bon, c'est pas étonnant que les chefs d'État, que ce soit européens ou autres, ou américains ou africains, applaudissent.
Hein. Je parle de ce que cela peut faire à un électeur, à ces jeunes femmes qu'on voyait pleurer hier à Hénin Beaumont, fief de Marine Le Pen, et qui sentaient frustrées, volées, malheureuses. Est-ce que c'est pas encore pire quand le monde entier applaudit?
Je comprends la souffrance de l'électeur qui assiste à. Mais est-ce que c'est fondamental? Surtout en question de politique étrangère, je pense pas du tout. Je pense que on peut souffrir parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'a pas de couverture sociale, parce qu'on manque de boulot. Là, je comprends. Mais pour la question de politique étrangère, je pense pas.
C'est assez décorrélé.
Voilà, c'est assez décorrélé, absolument. Ouais.
Même question, Richard Vernet.
Moi, je pense que les larmes auxquelles vous faisiez référence, Claude, c'est les larmes avant tout de la défaite de leur candidate. C'est à Hénin Beaumont. Elle est députée de cette circonscription. Elle a un lien charnel, Marine Le Pen, avec cette population-là. Est-ce que c'est le fait de se sentir perdu parce que finalement, les élites et l'Europe l'ont encore une fois emporté? Je ne suis pas sûr. Le vrai défi, c'est qu'est-ce que l'Europe peut apporter à ces jeunes femmes-là. Et ça, il faut travailler là-dessus. Et c'est un sujet incontestablement sur lequel Emmanuel Macron doit trouver des marqueurs. Il doit trouver des faits qui disent à ces populations « L'Europe est aussi là pour vous ».
Mais écoutez, merci à tous les trois d'avoir apporté votre éclairage sur ces questions.